Vous écoutez Les Motifs, l'actualité culturelle à écouter et podcaster sur aurillac.fr.
Bonjour, voici le numéro 17 des Motifs, un spécial cinéma à la rencontre d'un film tourné en 2019 et sorti en mars 2022 qui fait ressurgir du passé un crime perpétré à quelques kilomètres d'Aurillac en 1905. Son réalisateur, Vincent Leport, a bien voulu répondre à nos questions.
Vous écoutez Les Motifs.
Bonjour Vincent Leport.
Eh ben bonjour.
Dans votre premier long métrage, vous faites ressurgir du passé un fait divers qui s'est déroulé le 1er septembre 1905. Ce jour-là, Bruno Rédal, un jeune séminariste de 17 ans, est arrêté pour le meurtre d'un garçon de 12 ans dans un village proche d'Aurillac, proche de Royac, ici dans le Cantal. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Mais surtout, comment avez-vous découvert cette histoire? Car je suis persuadé que près de 120 ans plus tard, peu de Cantaliens en ont entendu parler.
Eh ben, en effet, même je suis du coup allé à Royac où ont eu lieu les faits. Et absolument personne n'était au courant de cette histoire. Et on peut comprendre pourquoi, parce que voilà, c'est un crime atroce qui a eu lieu il y a 120 ans. Il s'est passé beaucoup de temps. Le coupable n'a pas eu de descendants. Une histoire, si ce n'est honteuse, en tout cas, les gens ne voulaient pas forcément en parler tous les jours. Donc voilà, ça s'est un peu perdu comme ça dans les limbes de l'histoire. Si ce n'est qu'il y a un écrivain qui a écrit un livre sur les tueurs en série, qui, au début de son livre, sur une ou deux pages, évoquait cette histoire, l'histoire de Bruno Rédal, en disant que voilà un jeune homme de 17 ans qui, dans le Cantal du tournant du siècle, entre fin 19e, début 20e siècle, n'a tué qu'une seule fois, mais qui, quelque part, était une sorte de tueur en série en puissance, qui s'est arrêté, en fait, avant de continuer de perpétuer d'autres crimes. Et moi, donc, j'ai découvert cette histoire un peu par hasard dans ce livre sur les serial killers. Et tout de suite, j'ai eu une sorte d'abord de fascination, mais de curiosité autour du fait divers, parce que son ancrage temporel, géographique, l'âge du criminel, le fait qu'il était aussi au séminaire, qu'il voulait être prêtre. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça, assez singulières, assez inattendues. Et du coup, ensuite, j'ai découvert dans les archives municipales de Lyon les mémoires que le jeune homme, l'assassin, écrit en prison. Et là, j'ai une sorte de coup de foudre un peu, quelque part, sur la puissance de ce texte, son côté à la fois très très beau et des fois très très dérangeant, un mélange de grande violence, de grande douceur. Et surtout, c'était une sorte d'autoportrait d'un adolescent qui avait beaucoup souffert aussi au cours de sa vie, qui avait beaucoup lutté contre lui-même. Et d'un coup, voilà, je trouvais qu'il y avait un personnage assez fascinant et que j'avais jamais vu auparavant, donc je me suis dit que ça pouvait donner lieu à un film.
Alors, malgré la violence du crime, si on se replace un petit peu en 1905, on est à la période où va se voter vous parliez tout à l'heure de l'importance du fait qu'il était séminariste. On est à la période à peu près où va se voter les lois de séparation de l'Église et de l'État. Ça a son importance, j'imagine, pour la réaction des gens de l'époque.
En tout cas, ça aussi. Par exemple, voilà, le crime a eu lieu en 1905. C'est un séminariste qui est le coupable. Donc forcément, moi, ça m'intéresse. Et après, je me suis dit qu'en fait, il fallait qu'on sente le poids ou la puissance de la religion à cette époque dans le film, sans que ça devienne non plus l'histoire de Bruno Rédal devienne une sorte de métaphore de cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Il fallait que ce soit un peu sous-jacent comme ça, comme une ambiance, comme un décor. Et typiquement, par exemple, dans ses mémoires, il a quand même écrit 11 carnets d'écoliers de 28 pages, donc somme assez colossale. À aucun moment, il parle de cette loi, de ce contexte, quoi, politico-religieux. Et moi, je me suis dit, je vais adapter ses mémoires comme si j'adaptais les mémoires de Chateaubriand ou de Jean Genet, quoi. Et du coup, il n'en parle pas, il l'évoque pas, alors qu'il est l'année où la loi passe, il est au séminaire, en plus, il a fait une seule année au séminaire, et c'est pile poil cette année-là. Mais il l'évoque pas. Donc, je me suis dit, faut pas que le film l'évoque non plus. Mais faut qu'on sente, ce basculement entre c'est pas la fin de la paysannerie, mais c'est le début de l'exode rural. C'est aussi le début de la psychanalyse, de la criminologie. Enfin, on sent qu'on est à une bascule, là, autour de 1900-1905. Et que tout ça doit être dans le film sans que ce soit forcément dit. Faut qu'on le sente, mais que ce soit pas un sujet à part entière.
Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé les médecins, et notamment le professeur Lacassagne, à inciter Bruno Rédal à écrire ses mémoires? Ils avaient déjà décelé sa double personnalité?
Et ben en fait, je pense que quand même, malgré tout, le fait que le crime ait eu lieu en 1905, à l'époque, bon, c'est un fait divers atroce, donc forcément, bah, comme à toutes les périodes, bah, on aime parler de ça. Mais en plus, voilà, le fait qu'on est en 1905, il y a la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est un séminariste qui assassine un enfant de 12 ans sauvagement, bah, ça fait un peu plus de remous que qu'un autre crime qui a eu lieu à cette époque, forcément. Donc ça, ça arrive aux oreilles de la Cassagne. Et la Cassagne, en fait, ça faisait déjà, je crois, 15 ans à peu près, qui s'intéressait aux criminels et à ce genre de déviance, on va dire. Des gens qui, c'est pas juste un homme qui tue sa femme parce qu'il est jaloux. Il cherchait les criminels qui étaient considérés par la société comme des marginaux, comme des gens à part, ou alors comme des monstres, comme des fous avec des grandes majuscules. Et il essayait de les faire parler. Donc Bruno, en fait, Rédal s'inscrit dans cette continuité de sorte d'autobiographie que les prisonniers de la prison de Lyon écrivaient sous les ordres de la Cassagne. Et du coup, quand Bruno écrit ses mémoires, je crois que, je ne saurais pas le dire, mais il y a déjà eu 20, 30 autres prisonniers avant lui qui ont écrit ses mémoires, leurs mémoires. Et c'est sûr que la Cassagne, très vite, en fait, il voit qu'il a affaire à quelqu'un de très, très intelligent, et qui a une sorte de don naturel pour l'écriture. Enfin, en fait, je pense qu'il s'en rend compte très vite, c'est que face à lui, il a un jeune homme extrêmement lucide sur ses propres pulsions, extrêmement brillant, extrêmement intelligent, et puis qui prend du plaisir à écrire, et qui arrive surtout à se mettre à nu complètement, qui n'essaye pas de reporter sa culpabilité sur d'autres, de mentir, de manipuler, de cacher des choses. Il se met complètement à nu. Et alors là, du coup, c'est un cas d'étude génial pour quelqu'un comme lui.
Alors ce film a été tourné dans l'Aveyron et dans le Cantal aussi, et vous avez fait le choix d'un casting en grande partie non professionnel, en particulier pour le choix des acteurs qui interprètent le meurtrier, mais aussi ses parents, à des âges... Pour Bruno Rédal, à des âges différents, bien sûr. Vous souhaitiez des acteurs du coin, du territoire, et y a-t-il une raison particulière à cela ?
Je crois que c'est un goût, tout simplement, que j'ai. C'est quand je fais un film, je peux tourner en Bretagne, là, Cantal ou Aveyron. J'aime bien passer du temps sur place à faire les repérages, chercher les décors, rencontrer des gens. Et puis très vite, en fait, je me dis, mais pourquoi prendre des comédiens professionnels et pourquoi pas faire jouer ces gens que je rencontre là, dans la rue, et qui peuvent apporter une sorte d'authenticité, ou une sorte de... Ici, typiquement, voilà, on fait un film d'époque qui se passe il y a plus de 120 ans. Et des fois, c'est un peu compliqué si on veut sentir qu'on n'est pas en train de fabriquer un film un peu artificiel, sentir qu'il y a un peu de vrai là-dedans, de vie, d'inattendu, c'est peut-être bien des fois, enfin moi je trouve en tout cas, des fois, d'avoir des comédiens non professionnels, donc des gens qui sont peut-être plus spontanés, avec moins de techniques de jeu. Et moi, ça m'aide peut-être à retrouver une part de vie là-dedans. Ça m'aide aussi à retrouver l'époque. Voilà, c'est un film d'époque. Et je trouve les films qui ratent la reconstitution, c'est des fois des histoires de décors, de costumes, mais c'est aussi les comédiens, comédiennes, qui des fois sont un peu trop lisses, peut-être, un peu trop attendus, qui manquent un peu dans la voix, dans les visages, des choses un peu plus, voilà, un peu plus de la vie quotidienne. Et puis voilà, moi, je sais qu'un tournage, on arrive avec nos gros camions, l'équipe, ça peut être un peu envahissant, alors que quand on se mélange avec les gens du coin, certains sont figurants, d'autres jouent les rôles principaux, d'autres viennent nous aider pour... Typiquement, là, il y avait beaucoup de scènes de paysannerie. On a fait un long casting avec la directrice de casting dans des milieux paysans, quoi, dans les lycées agricoles, dans les foires bestiaux, dans les fermes, pour essayer aussi de trouver des gens qui pouvaient faire, je sais pas, comment on coupe le foin, comment on tue le cochon, voilà, des gens qui savent faire ça. Et plutôt qu'ils apprennent à des acteurs à le faire, je préfère qu'ils le fassent eux-mêmes.
Alors, il y a plusieurs Cantaliens, il y a plusieurs Aurillacois qui ont participé comme acteurs et comme figurants dans le film. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns et comment s'est passé le tournage avec eux ?
Du coup, la toute première comédienne qui avait été retenue pour le film, c'était Nelly Bruel, qui est aurillacoise. Parce que moi, j'avais écrit, c'est après une histoire vraie, mais j'avais écrit le personnage de la mère en me disant, mais qui pourra jamais jouer ce rôle ? Et c'est la directrice de casting, qui est aurillacoise aussi, qui s'appelle Baïja El Amrani, qui m'a dit, j'ai rencontré dans la rue une femme, elle me montre une photo, et je me dis, Non, c'était Nelly qui était trop jeune, qui avait les cheveux courts. Enfin, j'y croyais pas trop, mais elle m'a dit non, mais rencontre-la, tu verras. Donc on s'est rencontrés. Là, j'ai une sorte de coup de foudre immédiat en me disant bah voilà, la personne que j'écris depuis 3 ans sur papier, le rôle de la mère, bah voilà, faut que ce soit elle. Donc on a quand même fait un petit essai de jeu, mais tout de suite j'ai vu que Nelly arrivait à être complètement naturelle et avec une énergie qui passait à la caméra. Donc, à partir de là, bah, de fil en aiguille, j'ai rencontré les gens de sa famille. Et puis, pareil, chacun me rappelait un des personnages du film. Du coup, bah, voilà, j'ai tous ensuite, son mari joue le père de Bruno Rédal. Un de ses fils joue la victime de l'affaire. Ses autres fils jouent soit des figurants, soit des petits frères de Bruno. Enfin, voilà, il y avait un truc très familial comme ça. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres gens d'Aurillac, j'en oubliais plein. Mais il y a des médecins qui jouent les médecins du film ou bien des photographes judiciaires. Il y a les gens d'ici, c'est à Jussac à côté. Il y a deux personnes qui jouent des gendarmes. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent d'Aurillac ou alors de Saint-Flour parce qu'on a concentré beaucoup. On a tourné principalement en Aveyron. On a fait qu'une seule journée au final de tournage dans le Cantal, mais le casting on l'a beaucoup fait autour de Saint-Flour et de Aurillac, donc il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent de ces deux villes ou des environs, quoi. Notamment, bah voilà, Bruno aussi, quand il a 6 ans. C'est Alex Fanguin qu'on a rencontré dans une école à Saint-Flour et qui était pareil. Enfin, en fait, quand on fait un casting sauvage comme ça, il y a tout de suite d'avoir une sorte de coup de foudre un peu pour une rencontre qu'on a pour des gens. Je dis que bon, le jeu, ensuite, il faudra que ces gens puissent être à l'aise dans la caméra, mais que c'est presque secondaire. Puis il y avait quand même quelques comédiens professionnels sur le film. Typiquement, bah, le Bruno Rédal principal, c'est sa première fois au cinéma, mais il avait déjà fait du théâtre. Et il y a 4-5 autres rôles comme ça, où j'ai pris des comédiens professionnels comme Jean-Luc Vincent, Rémi Lebouc ou René Loyon. Mais après, sur le tournage, en fait, j'essayais pas de distinguer ceux qui avaient une expérience de ceux qui n'en avaient pas. Et globalement, j'ai essayé de m'adapter à chacun, mais de pas diriger les gens d'une façon particulière. Faut que ça se mélange, faut que la méthode, enfin, je sais pas, faut pas qu'il y ait une méthode, en fait. Faut que, en fonction de chacun, c'est quoi la meilleure méthode? Bah, certains, ils aiment bien répéter beaucoup, parler de leur personnage, d'autres, pas du tout, d'autres, ils aiment apprendre leur texte, d'autres pas. D'autres, c'est des jeux plus physiques, d'autres plus intérieurs. Enfin, voilà, c'était essayer de s'adapter un peu à chacun et chacune.
Alors, le film, aujourd'hui, il vit sa vie, hein?
Ouais, là, c'est un peu la fin de sa vie, là.
Il a été projeté il y a quelques temps à Aurillac. Il a même été sélectionné à Cannes. Des comédiennes d'Aurillac sont venues à Cannes. Quelle a été leur réaction?
C'est Nelly, parce que du coup, à Cannes, c'est un petit budget, donc on ne peut pas faire venir grand monde de l'équipe, des comédiens et comédiennes. Mais on a tenu justement à faire venir Nelly Bruel pour tout l'investissement qu'elle avait fait sur le film. Et quelque part, moi, je trouvais qu'elle représentait les gens du Cantal, de l'Aveyron, qui avaient accepté de jouer dans le film alors qu'ils n'avaient jamais fait de jeu auparavant. Avant, et qui avaient accepté, voilà, qui avaient accordé un peu leur confiance et leur enthousiasme pour participer à ce film, en sachant que voilà, moi c'était mon premier film, c'est un sujet pas évident, et donc je trouvais ça bien qu'il y ait une personne au moins qui puisse représenter tous ces gens. Donc voilà, ça a été immédiatement dans notre tête Nelly qui devait être là. Donc voilà, Nelly est venue pendant 3 ou 4 jours à Cannes, je crois, avec nous pour la projection officielle. Et c'est toujours étonnant, Cannes, parce que nous, voilà, on fait un film dans des coins un peu reculés, on met tous la main à la pâte, on finit nos journées éreintées en essayant de se serrer la ceinture pour faire rentrer le budget dans le film, dans notre budget. On arrive à Cannes et c'est un peu, pas l'opulence, mais il y a un truc un peu démesuré par rapport à une sacrée différence entre comment on vit le tournage et comment ensuite le film est montré. Mais après, bon, voilà, nous, on était dans une section parallèle, c'était pas le tapis rouge et les paparazzi, donc ça allait, c'était quand même plus familial, on va dire. Mais c'était une belle récompense, je trouve, pour ce film qui aurait très bien pu, comme beaucoup de films, ne pas faire parler de lui et finir un peu comme ça, une petite sortie et puis on n'en parle plus. Bah là, c'était déjà un premier tremplin pour que les gens puissent, les journalistes, les gens du milieu, parler du film. Et ça a aidé aussi la sortie ensuite, parce qu'en effet, quand on sort un film et qu'on dit voilà, il a été à Cannes, bon bah forcément ça intrigue un peu plus, quoi.
Justement, donc, vous avez parlé des journalistes, de la critique. Comment a réagi la critique à ce film?
Étonnamment, je sais pas, mais la critique a été globalement très 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 bonne. Je m'attendais en fait à plus, je dis étonnamment parce que
le film est
parce
dur.
Que je m'attendais à plus de, voilà, le film est assez dur, il est interdit aux moins de 16 ans, il aborde des sujets compliqués, même il a une forme, certains trouvent le film un peu pas aride, mais un peu sec, où il y a beaucoup de voix off, c'est ce qui se fait pas souvent au cinéma. Enfin, il y a tout un truc comme ça où je m'étais dit que le film allait sans doute beaucoup plus diviser. Et au sein des critiques, en tout cas, à part deux ou trois, la très grande majorité a été extrêmement positive. Et du coup, bah, là aussi, ça fait plaisir. Et notamment, les critiques, même ceux qui n'aiment pas le film, reconnaissaient que on avait l'impression d'être en 1900, qu'on y croyait et que les comédiens et les comédiennes permettaient justement d'y croire. Et qu'il y avait pas un... Ça, moi, ça me faisait très plaisir. Les critiques qui disaient que chaque petit rôle est réussi, en fait. Et ça, déjà, c'est une belle, je sais pas, un bel hommage à tous ces gens.
J'allais presque conclure avec vous, Vincent. Y a-t-il un deuxième long métrage en perspective maintenant ?
C'est en tout début de gestation, donc pour l'instant, non. Si tout se goupille bien, il ne sera pas tourné avant au moins 2024. Voire 2025. Donc non, pour l'instant, c'est le début d'écriture de deux longs métrages très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui est plutôt une comédie contemporaine, comédie noire, et l'autre qui est de nouveau l'adaptation d'une histoire vraie qui s'est passée dans le 19e siècle en France. Bon, alors cette fois-ci, c'est une histoire du Périgord, mais bon, ça pourrait se tourner ailleurs. Donc pourquoi pas, peut-être, vers le Cantal ou l'Aveyron, retrouver les décors de Bruno Rédal, quoi.
Merci Vincent Leport et en tout cas bonne chance pour la suite de votre carrière de réalisateur.
Ben merci à vous.
Les motifs, l'actualité culturelle à écouter et podcaster sur aurillac.fr.